Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes lundi 15 novembre 2021. Vous suivez la radio Nzamba Agathe Kakawe. C'est l'heure du journal. Tout d'abord les titres. Des prisonniers qui prennent peur d'être libérés et d'anciens détenus libres mais contraints de vivre en cachette. C'est la conséquence des meurtres et des enlèvements subis par des personnes qui ont été récemment libérées. Vous suivrez leur situation établie sur les derniers mois par la radio Nzamba. Cette situation et bien d'autres facteurs de violation grave des droits de l'homme ont poussé les partis de l'opposition PPD et MSD à écrire à l'Union européenne. Les deux formations politiques demandent à l'UE de maintenir ses sanctions économiques au vu de cette réalité. Et puis, ce bras de fer qui risque de faire d'innombrables victimes parmi les agriculteurs. Il s'agit d'une mésentente entre la direction de l'ISABU et les responsables de la société FOMI, avec comme conséquence l'utilisation d'un dosage de fertilisants non conforme aux recommandations des experts. Voilà pour les titres. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Commençons par ce signe d'insécurité, peur panique ce lundi sur la route Bujumbura-Kayanza. Depuis tôt le matin, cette route était sous haute sécurité au niveau des zones Bugarama et Banga en direction de la commune Matongo. Des sources au sein des voyageurs qui passaient par cet axe routier parlent d'une présence d'un grand nombre de militaires et de policiers lourdement armés, appuyés par des jeunes Imbonerakure munis de gourdins. Dans cette zone frontalière avec la Kibira, les habitants redoutent déjà une incursion de groupes rebelles. Vanessa Muiteka nous en dit plus.
Dès le matin, son lundi, la route menant vers Kayanza était bloquée entre Bugarama jusqu'à 2 ou 3 km en passant par le centre Banga de la commune de Matongo. Des raisons de sécurité sont à l'origine. À Bugarama, les passagers ont vu deux hommes assis à même le sol encerclés par des militaires, policiers et les jeunes Imbonerakure. Les habitants de la localité ont signalé que les deux hommes étaient des rebelles interpellés en provenance de la Kibira. Les militaires et les policiers stoppaient momentanément les véhicules qui passaient dans cet intervalle entre Bugarama et Wanga, selon toujours les usagers de cette route. Arrivés à près de la zone de Wanga, plusieurs autres militaires, policiers et jeunes Imbonerakure étaient présents le long de la route. Quatre hommes ont été aussi vus dans les mains des forces de défense et de sécurité assistées par des jeunes Imbonerakure. Des habitants de la localité ont dit que c'était eux aussi des rebelles arrêtés dans cette commune Matongo, tout près de la Kibira. Les habitants de cette zone proche de la Kibira indiquaient qu'il y aurait des groupes armés et qu'ils entendaient souvent des crépitements d'armes lourdes ces derniers jours. Le soir, ce sont les jeunes Imbonerakure qui font des rondes nocturnes quand les forces de sécurité regagnent leur position, selon les habitants de Matongo. À cette probable présence des groupes rebelles dans la Kibira, nous avons cherché le porte-parole de l'armée, mais sans succès.
Merci Vanessa Muiteka. La libération de certains détenus se transforme en enfer. La radio Nzamba en a répertorié au moins 9 qui ont été soit tués, soit enlevés, ou encore arbitrairement arrêtés ces derniers mois. Certains d'entre eux avaient obtenu leur remise en liberté par la grâce présidentielle. Aujourd'hui, cette situation a poussé certaines des personnes libérées de la prison à vivre dans la clandestinité. Jean-Marie Ndabashinze s'est penché sur certains cas.
Celui qui a été tué après avoir été libéré de la prison, c'est un mineur de la commune Mugamba, Bernard Baserukiye. Il a été fusillé tout près de son domicile. Certaines sources font savoir qu'il aurait été tué par le commissaire Moïse Arakaza, surnommé Nyiganyega quand il était encore commissaire communal à Mugamba. Pour le cas d'enlèvement, le premier en date est le nommé Alexis Nsabimana de Ruziba dans la zone Kanyosha, mairie de Bujumbura. Il a été enlevé le jour de sa sortie de la prison, le 26 avril 2021. Les siens ont attendu son arrivée, mais en vain. Il est introuvable jusqu'aujourd'hui. Le second est le nommé Thierry Kwizera. Il a été enlevé le 3 juin 2021. Il a été retrouvé plus tard au syndicat chaud des services nationaux de renseignement à Bujumbura, au quartier Lohero, non loin de la cathédrale Jinemundi. Il aurait été par la suite libéré après avoir payé d'une rançon. Le troisième est le nommé Bonfils Migabo. Il a été enlevé le 3 août 2021 et aucune trace depuis cette date. Le quatrième, c'est Christophe Ndairagije. Il a été arrêté par les forces de l'ordre chez lui à Kiganda, dans la province de Muhanga. C'était le 19 octobre 2021. Depuis lors, sa famille n'a pas été informée de son lieu de détention. Le cinquième, c'est un démobilisé ex-FAB Calixte Kalisabiye de la province Mwaro. Après sa libération de la prison, il a été arrêté le lendemain de son apparition en commune Lusaka par le responsable des renseignements à Mwaro. Il a été en détention dans les cachots de police à Mwaro, où il aurait été torturé. Il aurait été par après transféré à la prison de Muramvya. Le sixième, c'est Innocent Girukwigomba, ancien brigadier de la police et en même temps ancien officier de police judiciaire à Musaga. Il a été enlevé au centre-ville de Bujumbura par les hommes en uniforme qui lui ont trouvé dans la zone Lohero. Les siens ont alerté partout, mais il serait depuis lors sans trace. Pour les autres cas, c'est le triple enlèvement de Kayanza le 23 octobre 2021. Les victimes de ce triple enlèvement sont Lewis Ndayisaba, Désiré Maniragaba et Thierry Ndiokubwayo. Aucune information sur leur sort depuis leur enlèvement. Cette situation provoque un climat de peur chez ceux qui ont été récemment libérés. Certains optent pour une vie de clandestinité par peur d'être la cible de nouvelles arrestations ou enlèvements qui sont des fois suivis par des disparitions forcées.
Jean-Marie Ndabashinze. Cette situation provoque également la panique chez des détenus qui sont encore en prison, qui pourtant espèrent une libération prochaine. Pour Pacifique Inina Azoué, président du Forum pour la conscience et le développement, Fokodé, ce phénomène est extrêmement inquiétant. Le coordonnateur de la campagne d'Ondesa demande au président de la République de tout mettre en œuvre pour sécuriser les Burundais et de garantir la sécurité pour tous. Je vous propose de l'écouter.
Depuis un certain temps, nous recevons beaucoup de messages de détresse des personnes qui s'apprêtent à sortir des prisons burundaises dans les mois prochains, qui auront purgé leur peine et qui espèrent être libérées, mais aussi des personnes récemment libérées, notamment ceux qui ont été libérés sous la grâce présidentielle en avril dernier et d'autres qui ont suivi. Certains vivent cachés et nous disent qu'ils ne savent plus quoi faire. Il y en a d'autres qui vont sortir aussi, qui se disent « Mais où allons-nous? Comment allons-nous vivre en sachant qu'à tout moment, nous pouvons nous faire enlever et qu'à tout moment, nous pourrons nous faire tuer ?» Ces craintes sont fondées par les nombreux cas de disparition forcée, d'assassinat des personnes récemment libérées qui ont été observées depuis avril 2021. Alors les gens se posent la question aujourd'hui, est-ce que notre sécurité c'est de rester en prison. Nous sommes arrivés à un stade où des Burundais pensent qu'ils sont sécurisés lorsqu'ils sont en prison et que leur vie est en danger du moment qu'ils sortent de prison. Ces craintes concernent particulièrement des prisonniers arrêtés alors qu'ils étaient des militants de l'opposition, alors qu'ils avaient manifesté contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza en 2015, ou qu'ils ont été arrêtés sous des soupçons de collaboration avec des groupes armés. Et dans la plupart des cas, nous observons qu'ils sont enlevés après avoir été piégés par d'anciens collègues à la prison ou des personnes qu'ils ont laissées à la prison. C'est ceux-là qui les appellent et lorsque les personnes libérées répondent à ces appels, elles sont enlevées par des agents du Service national de renseignement. Ceci est extrêmement inquiétant, c'est extrêmement grave. Et nous demandons au président d'Aïchimie et à ses collaborateurs de tout mettre en œuvre pour sécuriser les Burundais et mettre fin à ce phénomène horrible.
Il réclame le maintien des sanctions économiques imposées au gouvernement burundais. Ce sont les leaders des partis de l'opposition PPD et MSD dans une correspondance adressée aux représentants de l'Union européenne en charge des affaires étrangères et de la politique de sécurité au sein de la Commission de l'Union européenne. Ces leaders politiques démontrent qu'une fois les sanctions économiques levées contre le Burundi, il y a risque que les destinées au peuple burundais soient utilisées pour entretenir des criminels auteurs de violations des droits de l'homme. L'essentiel de cette correspondance avec Beni Axelakana.
Les partis PPD Girijambo et MSD alertent sur la situation toujours précaire dans le pays, partant des élections frauduleuses qui ont porté Evariste Ndayishimiye à la tête du Burundi. Leonidas Hatungimana et Alexis Nduhije, dans cette correspondance adressée au haut représentant de la Commission de l'Union européenne, Joseph Borrell, en charge des affaires étrangères et de la politique de sécurité, rappellent que l'accord d'Arusha, qui a été la base de la réconciliation des Burundais, est meneur de la cessation des hostilités d'une guerre civile qui a duré plus d'une décennie a été bafouée par le régime en place. En témoigne des violations graves des droits de l'homme rapportées au quotidien. Le maintien des sanctions, selon la correspondance, serait une occasion pour contraindre le leadership burundais à se ressaisir comme ça a été durant les régimes passés bonne expérience. Ces leaders des partis PPD et MSD fustigent des discours selon lesquels des sanctions seraient inefficaces. Leonidas Atungimana et Alexis Sinduhiji rappellent que des sanctions économiques imposées par l'Union européenne au régime de Pierre Buyoya dans le passé avaient permis la réouverture de l'espace politique et la mise sur les rails de la démocratie étouffée par l'assassinat du président démocratiquement élu 3 mois après en 1993. En 1995, le gel de l'aide bilatérale par les gouvernements allemands et belges a produit ses effets jusqu'à l'aboutissement des négociations exigées entre le gouvernement burundais de l'époque et son opposition armée. Les partis PPD et MSD rappellent que l'Union européenne avait préconisé l'arrêt de toute aide économique au Burundi. Les leaders de ces partis d'opposition demandent que cette ligne défendue jusqu'à la tenue des élections en 2005 reprenne son cours aussi longtemps que la situation demeure aussi inquiétante au Burundi. Leonidas Atungimana et Alexis Sinduhije, dans leur correspondance, rappellent que les problèmes du Burundi sont fondamentalement politiques et doivent être résolus par des partenaires politiques burundais, d'où il faut le maintien des sanctions économiques imposées sur le Burundi afin de pousser le gouvernement à la table du dialogue.
Et puis, cette bonne nouvelle, l'organisation ACAT Burundi vient de recevoir le prix destiné aux défenseurs des droits de l'homme, Angel Duterte 2020. Il a été attribué par la Fondation ACAT pour les droits humains. Ce prix constitue, selon Maître Armel Nyongere, président d'ACAT Burundi, une reconnaissance et un encouragement pour le travail accompli par son organisation. Pour lui, c'est un message fort pour tous les défenseurs des droits humains au Burundi dans leur travail de grande importance. Suivez-le.
Nous nous réjouissons de ce prix d'une haute importance pour moi et pour l'association ACAT Burundi que je dirige. Il constitue une reconnaissance et un encouragement inestimable pour le travail que nous menons au Burundi depuis plusieurs années dans un contexte difficile où les défenseurs des droits humains sont poursuivis, intimidés, condamnés au Burundi. Donc, c'est une reconnaissance pour encourager le travail des défenseurs des droits humains en général et de la CAT Burundi en particulier. Et cela montre que c'est un soutien qu'il y a des organisations, qu'il y a des institutions et qui soutiennent le travail des défenseurs des droits humains au Burundi, malgré que les autorités continuent à les diaboliser, à les discréditer.
Inzamba.
Suite de ce journal, avec les surdosages des engrais de la société FOMI dans les champs qui risquent de créer la dégradation du sol, ces surdosages résultent d'un bras de fer entre le directeur général de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Isabou, et les autorités de la société FOMI. Un récent rapport d'experts du domaine de l'agriculture qui indique les bonnes doses est pourtant conservé dans les tiroirs de l'Isabou et du ministère de l'Agriculture. La question que l'on se pose est de savoir pourquoi ce rapport n'a pas été porté à la connaissance du public pour suivre les dosages recommandés par les experts. Les détails des résultats de cette investigation avec Georges Nimeya.
Dans les conditions normales, selon les présumptions du rapport des experts, 45 kg d'engrais appelé Imbura sont utilisés pour 1 hectare. Cependant, depuis 2019, les agriculteurs emploient près de 400 kg pour cette même superficie. Pour la variété de l'engrais dit Totahaza, les agriculteurs utilisent près de 200 kg pour 1 hectare au lieu de 300 kg. Selon le même rapport des experts, selon des sources au ministère de l'Agriculture, le ministre Lulema s'est arrogé le droit de fixer ces dosages avant que la moindre étude ait été préalablement menée. Le plus étonnant, c'est qu'après la sortie du rapport des experts, le même ministre Lulema, au lieu de s'en inspirer, a classé le document dans ses tiroirs et a maintenu le dosage édicté auparavant. Et pourtant, le directeur de la fertilisation des sols, Dodiko Prosper, avait essayé de s'opposer à cette mesure du ministre Lulema. Il avait alors été vite remplacé. Selon toujours nos sources au ministère de l'Agriculture, c'est que ni le ministre, ni le directeur général de l'ISAVU, Alfred Niokwishimira, ne veulent corriger ces dosages issus du travail de recherche des experts. Depuis septembre 2021, et donc 2 mois, le rapport est dans les mains, alors que les agriculteurs sont en train de faire les commandes des engrais chimiques pour encore une fois appliquer les mêmes fausses doses au lieu d'utiliser celles des experts. D'après les sources au ministère de l'Agriculture et de l'ISAVU, cela découle d'un conflit entre le directeur général de l'ISAVU et le patron de l'usine de Fomi, Adrien Nigachika, surnommé Ziranotse. Ces sources indiquent l'origine du conflit et que Nigachika est au point d'implanter une usine de cimenterie dans la province de Rutana sur l'intérêt que le gouvernement lui avait attribué dans le domaine de l'ISAVU. Ce qui n'a pas plu à Alfred Denio Kwishimira. Contacté par téléphone, le directeur général de l'ISAVU s'est réservé de tout commentaire. Quant au ministre Deogir Zulema, il était injoignable sur son téléphone portable.
Ras-le-bol des consommateurs dans les provinces Bubanza et Rumonge suite à la flambée des prix sur le marché. À Rumonge, les prix de presque toutes les denrées alimentaires de première nécessité ont augmenté ces derniers temps. Les commerçants expliquent que c'est l'une des conséquences de la pénurie du carburant. À Bubanza, même la bière produite au Burundi est devenue plus chère et ce sont les consommateurs qui en font les frais. Reportage Josine Kazé.
Cet habitant de la province Bubanza se plaint de la vie chère. Il fait remarquer que cette province du nord-ouest du pays fait face à une flambée des prix des denrées alimentaires et de certaines boissons alcoolisées produites au Burundi.
Un kilo de riz s'achète à 2250 chez les détaillants. La viande est devenue rare et chère. Une brochette ici à Bubanza était à 1500 francs burundais, mais actuellement elle s'acquiert à 2000 francs. La boisson Amstel est vendue à 2300 ou 2500 la bouteille, alors que le prix officiel est fixé à 1900 francs. La boisson Primus s'achète à 1500, 1600 ou 1700 francs. L'économie du pays va mal.
Au sud, dans la province Mongue, les prix des aliments de base comme le haricot, le riz et la farine de manioc ont grimpé. Selon des sources sur place, le prix du kilogramme de riz a connu une hausse de 300 francs burundais. En fonction de la qualité, le prix par kilo varie entre 2000 et 2300 francs burundais. Pour le haricot et la farine de manioc, l'augmentation est de 2 ou 300 francs le kilo. Si les prix ont grimpé sur le marché, c'est à cause de la pénurie du carburant selon les commerçants. Les transporteurs des marchandises sont en effet obligés de s'approvisionner en carburant sur le marché noir à un prix exorbitant. À leur tour, ils revoient à la hausse les prix de transport des marchandises. De leur côté, les consommateurs dénoncent une spéculation sur les prix. Des gens à faible revenu craignent que la situation ne s'empire si rien n'est fait pour y mettre fin. Les commerçants et les consommateurs demandent au gouvernement de remédier à cette situation, a précisé que le ministère du Commerce ne s'est pas encore exprimé sur cette hausse généralisée des prix des produits alimentaires.
Les fonctionnaires de l'État en province Karoussi se lamentent. Ils disent être menacés par leurs responsables pour donner des contributions supplémentaires pour la construction d'un stade provincial. Ils craignent d'être redéployés ailleurs ou de perdre leur emploi. On fait le point avec Joséphine Jones-Hunzimana.
D'après les sources en provenance de la province Karoussi, le début de ces contributions pour la construction du stade date de 2015. À l'époque, il était demandé à tout fonctionnaire de l'État de contribuer à raison de 3% de son salaire. Aujourd'hui, selon les mêmes sources, chaque fonctionnaire doit désormais donner de la contribution qu'il donnait avant et cela sous une forme d'obligation. Celui qui n'obéit pas à l'ordre se voit menacé par ses responsables hiérarchiques, comme le dit ici l'un de ses fonctionnaires.
Ce qui nous dérange, c'est qu'on est en train de nous menacer. Nous avons peur de perdre l'emploi ou d'être mutés très loin d'ici pour n'avoir pas donné cet argent. Beaucoup de fonctionnaires ont peur de ça. La preuve, c'est qu'on nous a dit que nous devons apposer notre signature sur une liste des ayant refusé de donner les contributions pour la construction d'un stade.
Depuis que ces contributions ont été réclamées, certains fonctionnaires de l'État ne voient pas réellement à quoi elles ont servi. Ils pensent que l'argent a été détourné.
Les travaux pour lesquels on a donné cet argent n'ont jamais évolué. On se demande réellement où va cet argent et comment il est utilisé. Nous pensons que l'argent a été détourné ou volé. C'est difficile de savoir parce que les travaux n'avancent pas. Aujourd'hui, ça nous inquiète beaucoup parce que on nous demande de donner le double de ce qu'on payait avant.
Nous avons cherché à en savoir plus auprès du gouverneur de la province de Karoussi, mais sans succès. Mais ces fonctionnaires demandent au ministère de la fonction publique et celui de l'intérieur de prendre la question en main avant qu'il ne soit trop tard.
Pourquoi faut-il se faire vacciner ?
La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Parlons santé pour poursuivre cette édition. Le manque d'engouement pour la vaccination au Burundi préoccupe les Burundais vivant à l'étranger, d'où cette initiative du Forum des diasporas burundaises de l'Europe de rappeler l'importance du respect des mesures barrières et de se faire vacciner contre le Covid-19. Claudia Churignana Anderson est la vice-présidente du FODIB.
Depuis décembre 2019, le monde entier est confronté à une pandémie sans précédent liée au Covid-19. Cette pandémie frappe tout le monde sans distinction de race, d'âge ou de religion. Elle est très mortelle et très contagieuse. Notre pays, le Burundi, n'a pas été épargné par cette pandémie. Le Forum des diasporas burundaises, FODIB, lance une campagne de sensibilisation pour prévenir cette maladie et stopper sa contagion. Nous appelons tous les Burundais à essayer d'éviter de grands rassemblements et si cela n'est pas possible, de se protéger en portant des masques. Le Forum des diasporas burundaises FODIB exhorte tous les Burundais à observer la distance sociale, à ne pas se serrer les mains ou se donner des accolades. Les Burundais ont toujours été caractérisés par l'amour du prochain et en observant ces mesures, nous aurons protégé nos enfants, nos parents, nos voisins, nos collègues et nous aurons protégé tout le monde.
Et puis, la sécheresse a détruit des champs de culture au camp des réfugiés burundais de Kakuma au Kenya. Même s'il avait plu au mois de septembre, la pluie n'a pas continué pour permettre aux champs de reverdir, les récoltes aider les réfugiés à compléter leur alimentation en attendant l'aide du ACR. Les légumes et d'autres aliments qui ne résistent pas au soleil sont les plus touchés. Les réfugiés demandent au ACR et à d'autres bienfaiteurs de suivre de près cette situation et d'intervenir en cas de besoin. Faisons le saut au Kenya avec Trifine Kanyuabo.
Depuis le début de la saison des pluies au mois de septembre, la partie nord-est du Kenya, précisément à Kakuma où sont localisés les réfugiés burundais, n'a pas continué à avoir de la pluie. Les réfugiés disent que leurs cultures sont menacées par la sécheresse alors que la récolte les aidait à compléter leur alimentation en attendant que l'aide du HCR leur arrive.
Depuis le début de la saison des pluies, la pluie ne tombe plus. Nos champs de culture ont été endommagés par la sécheresse. Alors que les récoltes nous aidaient beaucoup. Très souvent, le HCR ne nous donne pas de l'aide à temps. Les champs qui ont été touchés plus que les autres sont les légumes, les tomates, le haricot et le maïs. Les légumes nous aidaient beaucoup à équilibrer notre alimentation, surtout que nous n'avons pas d'argent pour les acheter au marché.
Cette sécheresse est la cause de la flambée des prix de certains denrées alimentaires sur le marché. La farine de maïs, l'aliment principal au camp des réfugiés, est devenue très chère.
Un sou de farine de maïs coûte actuellement 50 shillings, alors qu'avant, on l'obtenait à 30 shillings. Un sou de farine de blé coûte 85 shillings. Il n'y a pas deux mois, il coûtait 70 shillings. Tout cela vient compliquer nos conditions de vie, car ici, au camp, ces deux produits constituent nos aliments de base. Demandons bien docteur de nous venir en aide, car la situation risque de se compliquer.
Vous saurez que le camp des réfugiés de Kakuma héberge jusqu'à l'heure actuelle 200 000 réfugiés. La majorité d'entre eux sont originaires du Sud-Soudan, tandis que 20 000 d'entre eux sont d'origine burundaise.
Nous terminons cette édition par le sport. La deuxième journée du championnat de football au Burundi s'est clôturée ce dimanche. Bumamuru, qui s'est imposé devant Aigle Noir, consolide son avance sur ses concurrents. Quant à l'équipe nationale de football, elle a battu la Birmanie sur un score de 2-1 dans un match qui s'est joué en Turquie. Jacob Simomana nous fait le point.
Ce match amical a eu lieu dans la ville d'Antalya. Les hommes de Jimmy Ndayizeye ont encaissé le premier but, mais se sont ressaisis rapidement. Blaise Bigirimana a égalisé et Saidi Ntibazonkiza a donné la victoire d'Intamba Murugamba sur un pénalty. Ce match avait une double mission. La première était de donner la chance aux joueurs burundais évoluant à l'étranger d'avoir un match pour cette journée FIFA. La deuxième était les adieux de Révérien Gikuriyo à ces joueurs qui ont pour la plupart conduit l'équipe nationale du Burundi pour la première fois de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Le mandat de Révérien Dikoulié au président actuel du parti CNDD-FDD s'achève le 5 décembre prochain. Il sera succédé par Alexandre Mouyengue, commandant de l'appui à la protection des institutions, API, qui est candidat unique au poste du président de la FFP aux élections du 5 décembre. Il était lui aussi du voyage en Turquie pour prendre connaissance avec les joueurs. Jusqu'à présent, il était le chargé de la sécurité à la FFP. Au championnat Primus League, on clôturait la 12e journée ce dimanche. Buda City a battu Burundi Sport Dynamique sur un score de 2-0, même score entre Flambeau du Centre et Flambeau de l'Est en faveur de Flambeau du Centre. Dans les autres rencontres, Kayanda United s'est imposé à Abouyé devant Messager sur un score d'un 1-0. C'est le même résultat entre Top Junior et Atletico New Oil en faveur de Top Junior. Musongati et les Crocos se sont séparés sur un score nul et vierge. À Muyinga, Olympic Star a battu Vitalo par 3-2 et Bumamuru a encore une fois confirmé sa forme du moment en battant Aigle Noir sur un score de 2-1. Cette formation de Chivitoki est provisoirement première du championnat avec 29 points et commence à creuser l'écart. Le second, Musongati, compte 20 points et Flambeau du Centre troisième compte 19 points. La lanterne rouge du championnat est l'équipe des Crocos de Lumongi.
Fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba pour la production de ce journal. À toutes, à tous, un grand merci à vous également pour votre fidélité. Au revoir.